France Inter.
Mais oui, c'est l'été. Enfin, c'est l'été, c'est l'hiver. Parce que moi, je suis à l'envers, à La Réunion. Et là, j'allume mon poste de radio. Il est 8h du matin ici, retransmission. Mais oui, Blockbuster, ça recommence. Mais qu'est-ce que c'est bon. Merci, Blockbuster.
Bonjour Frédéric, c'est Ariane Allard. Je voulais te laisser ce message parce que j'ai eu la chance de participer 3 fois à Blockbuster. Et chaque fois, j'ai aimé retrouver ton point de vue, toujours joyeux, toujours au taquet, toujours partageur, que ce soit sur le cinéma ou les séries, mes deux passions, mais aussi, et là je te parle en tant que fervente auditrice, sur la pop culture que tu connais si bien et que tu aimes tellement explorer dans toute sa diversité, une diversité d'ailleurs que j'ai toujours retrouvée chaque fois sur ton plateau, parmi les invités, et ça aussi, c'était bien cool. J'espère entendre bientôt ta voix et ton sourire, ici ou là. Bonne route, Frédéric, et encore merci pour ton émission. Ciao.
Salut Frédéric et toute l'équipe de Blockbuster. Un énième merci pour toutes ces années, toutes ces émissions passionnantes. Je suis tombé dessus un jour par hasard en me disant, tiens, un sujet sur GTA à France Inter, incroyable, pourquoi pas. S'en est suivi évidemment une fidélité sans faille et un rattrapage avec tes podcasts. Un petit salut particulier pour Olivier Bénis qui est souvent là quand il s'agit de jeux vidéo et ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de l'entendre en plus de sa chronique le mardi matin, la photo jeux vidéo. Et puis pour terminer, un petit, voire gros merci pour tes éditos d'avant-émission. J'aime beaucoup. C'est la dernière saison, c'est triste, mais profites-en, c'est très agréable à écouter et ça fait réfléchir. Bon été.
To be or not to be, not to be.
Il y a des professions que les gens n'aiment pas trop. Syndicaliste et avocat, tu sens pas un amour énorme de la part des gens. Les syndicalistes et les avocats en France, tu vas avoir du mal à les faire applaudir à 20h comme le personnel des hôpitaux. Faut dire, c'est des professions clivantes. Jusqu'au jour où t'en as besoin. Et là, t'as beau être le plus gros critique du syndicalisme français, si c'est toi que les employeurs ont décidé de saquer, tu vas être le premier à payer ta cotisation au syndicat qui acceptera de te défendre. Car il s'agit bien de ça, de se défendre. Les syndicats ou les avocats sont là pour donner les coups que tu n'es pas capable de donner tout seul. En fait, tu sous-traites ta contre-attaque. Dans un monde civilisé où tu ne peux plus régler tes contentieux à coups de massue et de borborygme, on doit s'appuyer sur les syndicats ou les avocats pour trouver les mots qui nous manquent. L'avocat, c'est la répartie qu'on n'a pas. Il faudrait des avocats commis d'office dans la vie de tous les jours. Dès que t'es outré par une conversation, mais que tu sais pas trop quoi dire, pouf, il apparaît. Objection ! Ce n'est pas parce que mon client a souri poliment à votre plaisanterie grossière sur la prétendue incapacité des femmes à faire des créneaux qu'il la valide. Seul un état de sidération et de concorde sociale auquel s'ajoute un statut hiérarchique de subordination ont fait qu'il a gardé le silence sur votre goujaterie dont il souffre quotidiennement. En conséquence, je vous demande par la présente d'afficher dorénavant un mutisme de bon aloi. Oui, c'est ça. Vous avez bien compris. Fermez-la.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
It's been happening more and more.
Ça arrive de plus en plus souvent.
Tout d'un coup, il apparaît.
Anywhere.
D'où vient-il?
De nulle part. Généralement, je l'entends d'abord.
Ugachuka.
Ouais. Ugachuka. La semaine dernière, il a lancé un harpon sur moi. Et là, il m'est apparu en hockey.
Je vois que vous êtes dingue.
Depuis quand les psys peuvent traiter leurs patients de dingue?
Ali, vous voyez un bébé qui vous harponne ou qui joue en pleine rue au hockey et vous faites de la plongée sous-marine dans votre bureau. Vous êtes dingo. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Je vais essayer de vous réparer. Veuillez vous lever.
I'd like you to raise your right knee.
Je veux que vous leviez votre genou droit aussi haut que vous pouvez. Votre genou droit vite aussi haut que possible. Bien. Et maintenant, je veux que vous touchiez votre nez avec votre index gauche.
Good. Whistle if you
can. Parfait. Sifflez si vous pouvez.
Louder.
Plus fort.
What kind of therapy is this?
C'est quoi cette thérapie?
I just need to know if you trust me.
Ce n'est pas une thérapie. Je voulais savoir si vous me faisiez confiance.
Okay.
Si vous faites ça, c'est
now,
que oui. Ok, asseyez-vous. Maintenant, parlez-moi de ce fameux Billy, Ali. I've been down this
C'est en 1998 que le grand public de la chaîne M6 découvre Ally McBeal, une jeune avocate à l'imagination débridée, interprétée par Calista Flockhart. À ses côtés, une galerie de personnages tous plus décalés les uns que les autres. Hélène Vassal, John Cage ou encore la charismatique Ling Wu. La recette du succès, un humour et une fraîcheur où intrigues judiciaires et sentimentales se croisent dans les toilettes mixtes d'un cabinet huppé de Boston. Et pour revenir sur ce petit bonbon d'écriture, je suis entouré par Johanna Luisen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Libération et votre dernier ouvrage, Mère Solo, le combat invisible, est paru en 2024 aux éditions Payot. Avec nous, Anaïs Lefebvre-Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études anglophones à l'université Rennes 2, donc je vous présente officiellement mes excuses pour tous les mots anglais que j'écorche depuis 10 ans. Et vous êtes l'autrice de Speak Up, des coulisses à l'écran, voix de femme et série américaine à l'orée du 21e siècle, paru aux Presse Sorbonne Nouvelles en 2020. Et avec nous également, Julien Monnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Nantes, fan de la série Ally McBeal.
Tout à fait.
L'amour et la loi se ressemblent. Romantique dans leur concept, leur pratique peut vous rendre malade. En fait, j'appréciais vraiment mon métier. Jusqu'à ce qu'un des collaborateurs commence à m'apprécier un peu trop.
Hey!
Hey!
Vous êtes fou, vieux dégueulasse!
Je n'y peux rien, j'ai des fourmis dans les mains.
Quand j'ai raconté la scène à Monsieur Lyne, il l'a viré.
Ce satyre m'a mis la main aux fesses.
Quoi ? Vous êtes viré. J'irai en justice.
Et il l'a fait. Il a plaidé le TOC, trouble obsessif compulsif. Son symptôme était de pincer les fesses.
Il faut que je les empoigne.
Il a déposé un recours basé sur son incapacité notoire.
Qu'est-ce que vous dites ?
Vu les indemnités qu'il réclame et vu qu'on risque d'être condamné à lui payer plus du triple en dommages intérêts si on perd la cause, il vaut mieux que le cabinet soit poursuivi par vous.
Il s'agit des toutes premières minutes de la série Ally McBeal créée par David Edward Kelly, la voix française de Calista Flockhart qui joue la jeune avocate et Natasha Muller. Johanna Luisen, que représente Ally McBeal dans la galaxie des séries cultes des années 90 ?
Ben moi, je dirais que dans une décennie qui a quand même été marquée, même s'il y a eu des séries assez novatrices en matière de représentation de femmes, ça a quand même été souvent des séries assez familiales ou sans forcément, ou alors des choses, Buffy ou des choses comme ça, mais qui sont pas dans le quotidien. Enfin, oui. En tout cas, c'est du fantastique. Là, je trouve que à l'orée des années 2000, on va dire, il manquait un peu un personnage qui était ancré dans une espèce de non seulement de vie quotidienne, mais moi, ce qui m'a le plus frappé quand je l'ai vue quand elle est sortie, c'était le fait qu'elle était vraiment ancrée dans sa vie professionnelle et que c'était en fait un des moteurs, un des gros moteurs de la série, était la vie professionnelle d'Ally McBeal et pas uniquement sa quête de l'homme, etc. Et comme elle est à peu près, enfin, elle a été vue à peu près en même temps que Sex and the City.
D'ailleurs, c'est un peu des séries miroirs. Hein.
Oui, ce sont des séries miroirs, mais Sex and the City, que j'aime beaucoup aussi, mais pour d'autres raisons. Il n'y avait pas, justement, il y avait la vie professionnelle de Carrie Bradshaw. Elle est quand même, elle n'est pas non plus. En fait, elle vient toujours en appui de sa vie intime et amoureuse, alors que la vie d'Ally McBeal et les intrigues, enfin, elles sont quand même présentes. Et le fait qu'elle aille travailler, qu'elle se batte. Dans le premier épisode, par exemple, pour partir d'un cabinet où elle est harcelée et agressée sexuellement, en fait, il y a quelque chose de très... Moi, qui m'a beaucoup inspirée. Pardon. Et je pense que, vraiment, on sortait un peu du schéma familial et on arrivait, et je pense qu'en même temps, il y a un autre personnage qui est aussi émergent à cette époque-là, c'est Bridget Jones. Aussi dans les personnages, bon, qui est moins ancré dans sa vie professionnelle, elle, pour le coup. Mais quand même, il y a une émergence de la célibataire, quoi. La célibataire à l'orée de la trentaine, etc. Donc ça, moi, ça m'a quand même beaucoup inspiré.
Anaïs Lefebvre-Berthelot, que représente Ally McBeal pour vous par rapport au pléthore de séries américaines que vous avez pu voir ou analyser? Quelle est la place d'Ally McBeal là-dedans?
Alors, il y a deux choses. Il y a pour moi en tant que spectatrice, puis après il y a pour moi en tant que chercheuse. Pour moi en tant que spectatrice, c'était une série très très importante que j'ai commencé à regarder quand j'étais ado et qui m'a, je pense, tellement fascinée quand j'avais 12-13 ans que j'ai décidé de faire ma thèse dessus des années plus tard. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué parce qu'effectivement, il y avait cette nouveauté d'un personnage féminin central. Alors c'est pas tout à fait inédit hein, dans l'histoire des séries télévisées aux États-Unis. Ça s'est présenté avant, dans les années 70 notamment. Il y a des figures de femmes célibataires qui vont dans la grande ville pour travailler. On va suivre à la fois leur projet professionnel et la construction de leur réseau social et leur vie romantique. Mais c'est vrai que dans les années 90, on n'était plus vraiment dans ces logiques-là. Donc Ally McBeal apparaît vraiment comme un ovni. Et un ovni qui apparaît à un moment où l'industrie télévisuelle, en fait, aux États-Unis se restructure parce qu'il y a une multiplication des chaînes. Mm-hmm. Et donc, il faut trouver des recettes pour attirer des segments du public auxquels on s'intéressait pas forcément avant. Et dans ces cas-là, parler aux femmes, eh ben, c'est une bonne solution parce que les femmes, c'est une minorité qui représente 51% de la population. Et donc, Fox cherche, en fait,
c'est une majorité qu'on fait passer pour une minorité.
Absolument, c'est ça. Et donc, et Fox va mettre cette série à la suite de Melrose Place pour attirer un public qui était un peu délaissé à l'époque.
Mais ce qui est fou en fait dans cette série, c'est que il y a quand même assez peu d'endroits où l'action se passe. C'est toujours les bureaux, c'est principalement les toilettes. Et pourtant, à chaque saison, on est sur 22, 23 épisodes. C'est énorme.
Ah bon, on n'est plus habitué à ça, oui. C'est sûr que maintenant qu'on a des mini-séries, mais c'était une série de network assez classique, voilà, sur un format de drama, un épisode toutes les semaines. On suivait un quotidien aussi. C'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel on n'est plus forcément habitué, parce que maintenant, on a des intrigues qui sont très resserrées. Et qui sont construites parfois, même où les quatre saisons ont été écrites avant même la première diffusion. Là, on était dans une écriture du quotidien qui prend en compte les retours des téléspectateurs et des téléspectatrices, les retours de la chaîne, ce qui se passe avec les acteurs et les actrices. Et donc oui, on va suivre au quotidien ce groupe d'avocats et d'avocates au cabinet, au tribunal et dans les toilettes, au bar et dans les toilettes, non mixtes, enfin mixtes.
Julien Meunier, je ne vais pas cacher aux auditeurs et auditrices que vous m'avez contacté sur Instagram en disant « Oh, je suis fan d'Ally McBeal photo à l'appui la... vraiment, vraiment, on sentait l'avocat, il y avait vraiment la plaidoirie sur pourquoi je ferais un bon invité pour parler d'Ally McBeal et effectivement j'ai été convaincu. Donc comment vous avez eu ce coup de foudre avec cette série?
Alors moi, je m'intéresse beaucoup à toutes les séries judiciaires, de manière générale.
Donc, vous avez de quoi faire. Hein.
Non, j'ai de quoi faire, mais quand je suis tombé sur Ally McBeal, alors moi, je ne l'ai pas découvert à la fin des années 90. J'étais pas encore avocat, j'avais pas encore cette petite passion. Et quand je l'ai découvert il y a quelques années simplement, je me suis dit, mais en fait, c'est une pépite, parce que ça réussit un tour de force de mélanger et la comédie et la série judiciaire, tout en faisant du droit à une sorte de personnage central, puisque toutes les aventures d'Ally, toutes ses passions amoureuses, tout ce qui lui arrive dans sa vie privée, à elle et puis à John et à tous les membres du cabinet, l'affaire judiciaire qui est en cours dans l'épisode, en général il y a deux procès par épisode, et au moins l'un d'entre eux est une sorte de reflet, d'effet miroir ou de provocation par rapport à leur propre vie à eux, pour donner un exemple tout bête, il peut y avoir une histoire de divorce et ça incite Ally à se séparer de son petit copain. Ou il y a une histoire, il y a un épisode qui est un peu emblématique à ce sujet dans la première saison. C'est une histoire de trouble en fait. C'est un homme qui est marié qui veut non pas divorcer de sa première femme, mais avoir le droit d'en épouser une deuxième. Et donc ça pose la question de la liberté matrimoniale aux États-Unis. Et en fait, pour Ally, c'est un renvoi à l'histoire qu'elle vit avec Billy, qui est marié à Georgia, et donc à leur trouble à eux.
Et est-ce que vous, en tant qu'avocat, aussi des fois vous avez été troublé par vos affaires et ça a eu un impact sur votre vie quotidienne comme Ally McBeal?
Ah oui, ça nous arrive régulièrement. En général, moi je fais du droit de la famille, donc je fais du divorce, des séparations, ce genre de choses. Le rapport aux enfants, oui, ça peut, les affaires qu'on traite, quand on fait ce genre de choses. Mais moi, j'ai une vie de famille, donc forcément ça me touche, oui.
Et alors, vous avez parlé d'Ally McBeal en présentant ça comme une comédie judiciaire, mais c'est aussi une comédie musicale. Johanna, comment on qualifie Ally McBeal? Parce qu'il y a aussi des fois une irruption quasiment cartoonesque dans Ally McBeal, où elle a des fantasmes, où ce qu'elle pense, il n'y a pas de filtre, on le voit à l'écran.
Mais c'est une série, c'est très difficile à décrire, parce qu'effectivement, entre la place prépondérante de la musique et le générique chanté par Vanda Shepard, qui est elle-même un personnage qui chante dans le bar le soir, et qui ponctue quand même régulièrement les épisodes et les scènes, etc. L'omniprésence de Barry White comme gimmick intérieur des personnages. Enfin, il y a un rôle extraordinaire de la musique plutôt états-unienne dans la série. Et c'est vrai que du coup, entre la comédie musicale et puis le mélange de registres aussi, parce que c'est entre la comédie, parfois le drame, la série judiciaire, mais parfois, enfin moi j'ai aussi pleuré devant Ally McBeal dans des moments vraiment de drame. Il y a des maladies, des morts, il y a des choses vraiment tristes, quoi. Elle est vraiment enfin, vous disiez tout à l'heure que c'était un ovni, mais c'est vrai que je ne sais même pas comment on peut appeler ça, en fait. Vraiment.
On va essayer de trouver une solution. Quand on parle d'Ally McBeal, on ne peut pas faire l'impasse sur une des voix, vous l'avez citée, une des voix les plus suaves du XXe siècle, une voix capable de relancer la démocratie, la démographie, et peut-être la démocratie aussi, d'ailleurs, d'un peuple en crise. Je veux bien entendu parler du seul, de l'unique, Barry White, You're the First.
Sur France Inter.
Parfois, l'amour n'a pas de raison. La plupart des gens s'aiment pour toutes sortes de folies et on ne légifère pas ces raisons-là. Mais par contre, dès qu'ils prononcent leurs vœux, dès qu'ils posent leur signature en bas d'une feuille, dès qu'ils ont des enfants, tout d'un coup, on devient sérieux et on appelle ça une institution. Une institution qui protège un mari qui vaccine toutes les femmes avec lesquelles il s'amuse au docteur, qui protège un mari qui ne se refuse aucun plaisir, même aux dépens de sa femme et de ses enfants, qui protège un mari irresponsable qui ne paiera jamais de pension alimentaire parce qu'il a trouvé un avocat véreux et un médecin véreux qu'ils font passer pour fou, qui protège un mari et l'autorise à venir devant un juge pour dire qu'il n'a jamais été marié avec cette femme. Alors qu'elle a été une épouse exemplaire qui protège un mari qui se dit dépendant de l'amour, dépendant du sexe, dépendant de l'infidélité et du mensonge. Qui protège un mari qui nous expose son pénis sans aucune pudeur puisqu'il est soi-disant malade. Comment pouvez-vous supporter de faire autant de mal à votre femme, de faire autant de mal à vos enfants? Comment supportez-vous de vivre, vous qui n'êtes qu'un dégueulasse?
Une plaidoirie de Maître McBeal que vous pouvez retrouver en intégralité dans le 12e épisode de la saison 2. Alors, qui est le showrunner derrière cette série? Parce qu'on a parlé évidemment du sujet, de son impact, mais pas encore de la personne derrière cette série, et qui d'ailleurs a d'autres séries judiciaires à son actif, Julien.
De mémoire, c'est David Kelly. Et alors, il vient de Chicago Hope, que j'avoue que je n'ai pas regardé, mais il a aussi... il a aussi fait la série The Practice, qui se passe à Boston aussi, il me semble, et qui met en scène un avocat qui s'appelle Donnell. Il va y avoir un crossover d'ailleurs avec Ally McBeal, mais pour le coup, on est sur une série judiciaire beaucoup plus classique. Donnell, c'est un badass, il fait du droit pénal, il est face à des criminels. Et donc, il est un peu en contrepoint dans le même univers que Ally McBeal, à qui... Notamment, il y a eu des critiques à l'époque sur le fait qu'elle n'était pas encore suffisamment badass pour une avocate qui était le personnage central d'une série judiciaire.
Anaïs Lefebvre-Berthelot, est-ce qu'on valide cette critique? Est-ce que Ally McBeal n'est pas à la hauteur de ce cabinet?
Oui, alors, ça dépend de nos attentes.
Mais oui, parce qu'en plus, cas qu'on aborde dans Ally McBeal sont des cas quand même très, très, très singuliers, très loufoques aussi. Il y a quelqu'un qui veut avoir le droit de venir travailler en Père Noël, parce qu'il pense qu'il est le Père Noël. Enfin, voilà, on est dans quelque chose d'assez barré. Hein.
Oui, absolument. Mais c'est vraiment ce qui fait la spécificité d'Ally McBeal, ce qui, je pense, aussi fait son succès au moment où elle sort dans les années, au milieu des années 90. Il n'y a pas d'exemple avant d'une série réaliste, mais qui mettent en scène à ce point-là l'imaginaire et les fantaisies et les excentricités de non seulement des personnages principaux, mais aussi du monde en général. Et Ally McBeal, en fait, c'est une espèce d'ode aux excentriques, aux bizarres, aux fous de manière générale, et avec l'idée que justement il faut laisser entrer cette part de folie dans la pratique du droit, dans les normes, et qu'il faut l'utiliser pour interroger les normes. Et du coup aussi pour interroger les normes du genre, et ça fait partie des choses que voilà, où Ally McBeal se situe vraiment au nœud de débats de société sur le harcèlement sexuel, qui est une question très très importante dans les années 90 aux États-Unis notamment, mais aussi sur les relations conjugales, sur la place des femmes au travail, la place des minorités aussi dans le monde professionnel en général. Et donc, à partir du moment où une série va aborder ces questions-là, forcément, elle ne sera pas à la hauteur. J'en connais pas des séries qui sont à la hauteur.
On a parlé de Buffy quand même.
Oui, mais
après, je défendrai Buffy jusque-là. Vous ne ferez jamais dire du mal de Buffy.
Tout le monde défendra Buffy, mais voilà, en fonction de nos convictions politiques respectives, voilà, ce sera jamais. Il y a forcément des gens pour qui ce sera pas à la hauteur. Un des intérêts en fait d'Ally McBeal, c'est justement de toujours de poser les questions et de poser les termes du débat et de donner les points de vue opposés, mais de jamais donner la solution. Et ça. C'est en ça aussi que c'est vraiment une série judiciaire, c'est-à-dire qu'elle place les téléspectateurs en position de témoin. On a tous les côtés, que ce soit dans les affaires ou que ce soit dans les affaires traitées au tribunal ou dans les histoires intimes. Et ensuite, ben voilà, c'est à nous de décider. Il n'y a pas des personnages qui sont vraiment bons ou vraiment mauvais. Il y a des humains dans toute leur complexité, avec leurs difficultés, leurs ambiguïtés, leurs paradoxes. Et ça va être à nous de nous démêler un peu de tout ça, avec l'aide de l'accès à leurs pensées les plus intimes, grâce à la voix off, grâce aux scènes d'hallucination, aux rêves et grâce à la musique aussi.
Jonah Lucène, j'avais gardé en tête, en repensant à Ally McBeal, j'avais en tête une série extrêmement féministe. Et pour préparer cette émission, quand j'ai revu certains épisodes, alors en même temps, c'est gage que les choses ont vraiment évolué énormément en plus de 15 ans. Même si c'était une série considérée comme féministe aujourd'hui, il y a plein de passages qui sont un petit peu gênants aujourd'hui.
C'est un mélange parce qu'il y a des passages qui sont quand même très forts et la scène inaugurale d'agression sexuelle et du fait qu'elle quitte son cabinet et qu'elle s'érige contre, etc. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à l'écran. Après, c'est très ambivalent, Ally McBeal, mais c'est aussi l'époque sans doute qui veut ça, enfin, qui n'était pas effectivement pas tout à fait prête à des tas de choses. C'est compliqué, je trouve, de donner un label aujourd'hui à quelque chose dans un contexte qui est le contexte des États-Unis des années 90, qui est quand même extrêmement crispé. Je sais qu'à l'époque, elle n'était pas forcément considérée non plus comme féministe, parce que le Time a fait quand même sa une en montrant des féministes de différentes époques, notamment Gloria Steinem et ensuite Ally McBeal, et en disant voilà ce que c'est le féminisme aujourd'hui. Et l'article est extrêmement violent, où il dit, donc ça c'est de 98, et il dit vraiment les féministes d'aujourd'hui, elles sont extrêmement individualistes, elles ne pensent qu'à elles, l'article critique les jupes de oui. Calista Flockhart, enfin d'Ally McBeal, en disant qu'elles sont bien trop courtes, etc. Donc, enfin c'est quand même très très violent, et c'était, enfin il y avait aussi des gens qui trouvaient que c'était un féminisme individualiste. Je pense que là ça devait rejoindre un peu les critiques sur les Spice Girls en disant c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'était pas forcément à l'époque considéré comme féministe, et aujourd'hui on peut trouver qu'il y a des choses qui le sont et d'autres qui le sont absolument pas. Avec quand même un personnage qui est le patron du cabinet, Richard Fish, qui est extrêmement sexiste, mais en même temps qui est aussi moqué pour ça. Enfin, c'est pas accepté, ce sexisme-là n'est pas accepté non plus. Il y a des ambivalences, mais je trouve qu'en termes de représentation, quand même, il est extrêmement intéressant et il donne de donner à voir des personnages qui s'émancipent de plein de choses. Je trouve que ça, c'est déjà féministe en fait.
Mm-hmm. La série répond d'ailleurs sur l'histoire de la mini-jupe, puisque dès le début de la seconde saison, on a un magistrat qui va effectivement reprocher à Ally d'avoir des jupes assez courtes. Il va lui dire « Vous ne revenez pas avec des jupes aussi courtes dans mon tribunal. » Et elle a le choix entre acquiescer ou revenir avec sa mini-jupe. Et elle fait le choix de revenir avec sa mini-jupe. Donc elle est poursuivie pour outrage à magistrat. Et finalement, elle lâche rien. Et c'est son cabinet entier qui vient se positionner dans la salle pour dire, mais en fait, elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Si c'était un homme, vous ne lui diriez pas de s'habiller avec une cravate ou autre chose. Et finalement, le juge finit par admettre qu'il a tort et elle a le droit de s'habiller comme elle veut.
Et puis, c'est aussi une série qui a fait la part belle, à l'époque du moins, à la diversité.
Oui, il y a pas mal de personnages. Excusez-moi. Il y a pas mal de personnages. La colocataire noire de Ally McBeal.
René,
qui est un personnage quand même assez fouillé. Elle est pas juste là pour la décoration. Elle est vraiment là, quoi. Excusez-moi. Il y a le personnage de Ling, incarné par Lucy Liu. Il y a aussi un personnage transgenre. Qui à un moment donné entre dans une relation romantique avec un des personnages. Ça, c'est vers la fin de la série, c'est même saison 4 ou 5, quelque chose comme ça, c'est vraiment la fin. Alors après, on pourra dire que ce personnage trans n'est pas joué par une personne trans, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, il y a une représentation à l'écran d'un personnage trans qui est quand même rare aussi. Donc oui, en termes de représentation, je crois qu'Ally McBeal a été quand même assez... Et un autre sujet, mais là on s'éloigne de la question de la diversité, mais on en parlait tout à l'heure, c'est la question de la santé mentale, parce que c'est vrai que dans leurs zinzineries, les petites choses qu'ils entendent dans leur tête, les hallucinations visuelles, vocales, etc. Tous les personnages en sont un peu atteints, mais c'est aussi des choses sur lesquelles ils prennent appui, effectivement, pour avancer ou pour penser, parfois même. Je trouve ça extrêmement intéressant parce que ce sujet-là, il est aussi très neuf. Il me fait penser à une autre série qui est Crazy Ex-Girlfriend. Qui joue aussi sur ce côté-là. Et ça aussi, je trouve ça très libérateur et finalement, à l'époque où Ally McBeal a été diffusée, c'était aussi assez rare d'avoir ce genre de choses à l'écran, à la fois le psy et les petites choses comme ça qui peuvent les sujets de santé mentale qui peuvent être mis en lumière.
Alors, on est ensemble pour parler de la série qui nous fait aimer les avocats. Ally McBeal, éloge de la facétie et de la gaieté mêlée à un spleen occasionnel. Et c'est aussi ainsi qu'on pourrait définir celle qu'on va entendre, Clara Luciani, avec « Cette vie ».
« regarder le soir sombrer, s'évanouir dans la Seine. Elle est encore mieux, cette fille, depuis qu'elle a croisé le tien. Et toi tu n'es pas banal comme animal. Je suis tombée en une minute pour ce regard bleu sale. Elle est encore mieux, cette vie, depuis qu'elle a croisé le tien.
Sur France Inter.
Je me sens comme une crêpe.
Ouais.
Une quoi?
A waffle.
Une crêpe. Elle se rétracte.
Oh,
qui donc?
Ali.
Quelque chose a dû provoquer cette récalcitrance.
Tu l'as embrassé?
Not really.
Pas vraiment.
John, si t'embrasses pas au premier rencard, t'es un gentleman. Au deuxième, tu es gay.
Je n'ai pas envie de passer pour un prédateur.
Écoute-moi, ces trucs à propos du féminisme, de l'égalité des sexes, tout ça, c'est de la rigolade. Les femmes veulent qu'on les prenne.
Tu es sûr?
Pas sans leur consentement, bien sûr. On n'est plus au temps des cavernes. Mais il faut que tu fasses preuve d'un peu d'agressivité. Tu es le mâle.
Cette logique me laisse pas.
Prends-lui la main et ne la lâche pas. Pétris-lui l'épaule, ça lui fera un massage et elle comprendra qu'elle t'appartient. Tu peux même, si tu veux, lui prendre les deux épaules. Les femmes aiment se sentir dominées et pour l'amour du ciel, embrasse-la. C'est le corps qui parle. Tu es à moi. Tu sens ma domination. Ça t'enivre, ça t'excite.
Oh, Diego.
J'ai du boulot.
Georgia.
John.
Vous venez d'entendre un extrait du 15e épisode de la première saison d'Ali McBeal. Richard Fish est interprété par Greg German et doublé par Pierre Tessier. Anaïs Lefebvre-Berthelot, on l'a entendu là, on a ce personnage extrêmement misogyne, homophobe, qui est aussi grossophobe. Et c'est vrai qu'il n'est jamais... valorisé, on se moque de lui, ses propos sont toujours contestés par son entourage, mais il est éminemment drôle dans la logique de la série. Et est-ce que c'est pas ça surtout qui a changé durant ces 15 dernières années? C'est que ce personnage qui était à l'origine de Punchline, aujourd'hui, il fait beaucoup moins rire.
Je pense que c'est un peu compliqué parce que d'abord je sais pas si on regarde encore Ali McBeal aujourd'hui. Je pense que c'est une première chose. Je suis pas sûre qu'Ali McBeal soit autant regardé aujourd'hui qu'elle l'a été à l'époque. Et une des spécificités, c'est qu'effectivement il fait rire, mais on rit de lui. On rit jamais avec Richard. On a souvent cette réaction de oh! ou de rire de lui parce que c'est trop, parce qu'il est dans l'excès. Et c'est vrai que quand on regarde toute la les thématiques qui sont abordées par la série. Cette question du rapport entre les femmes et les hommes, elle est vraiment centrale. Et on voit que c'est quelque chose qui travaille le scénariste principal, hein, David Kelly, mais aussi la société états-unienne à ce moment-là. Précisément, en fait, on va vraiment montrer les excès. Et donc, il y a un tas de questions qui sont aussi très contemporaines. Le masculinisme, effectivement, le harcèlement sexuel, la question du consentement, la question de la domination dans les rapports sexuels. Mais toutes ces questions-là, elles sont abordées toujours avec un tel excès, toujours dans l'outrance. Et ça, ça fait que, on en vient toujours à se poser des questions. Donc, la question, en fait, c'est pas forcément ce que dit. Enfin, je pense pas que le problème ce soit la manière dont le personnage est écrit. C'est la manière dont est-ce qu'on est encore capable de rire de ces choses-là. Voilà. Et ça, c'est peut-être à ce niveau-là que la conversation a changé. Alors, c'est pas du tout pour dire c'était mieux avant. On peut pas
rien
dire.
Non,
c'est
non, vraiment mais pas alors, du tout ça. En plus, ça. Vraiment, ça mais... n'est ça n'est oui. Les auditeurs et auditrices de Blockbuster le savent bien. C'est pas du tout mon propos.
Ouais, ouais, non, juste, je sais, mais
c'est voilà. Juste de mesurer à quel point, en fait, en très peu de temps. Un même objet qui provoquait un éclat de rire franc, tout d'un coup, ça devient un truc où tout le monde se regarde genre qu'est-ce qu'il vient de dire.
Ouais, voilà. Et du coup, je pense qu'en fait, maintenant, pour faire passer le même type de message, on va juste utiliser d'autres outils. Et ça se voit dans la trajectoire de David Kelly, qui était vraiment le l'enfant prodigue de la télé dans les années 90. Il a eu un moment, il avait 3 séries en parallèle, il avait des contrats avec absolument tout le monde. Il a eu un petit passage à vide au début des années 2000 et il est revenu en force en étant producteur, showrunner et scénariste de Big Little Lies. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on voit comment est-ce qu'on va prendre en compte un peu toujours de la même manière, avec cette ambiguïté morale, cette question des dilemmes éthiques, de pas désigner quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est mauvais, mais il va reprendre en charge cette question des rapports femmes-hommes, des rapports de domination, des rapports de pouvoir, mais avec des outils qui sont différents, plus avec l'humour, mais du coup beaucoup plus avec le mélodrame. Donc je pense que c'est ça qui a changé, c'est qu'on rit moins de manière générale aujourd'hui, je dirais.
Oui. Mais ça, c'est valable pour tout.
Absolument.
Voilà, tous les médiums, quels qu'ils soient, c'est... particulièrement sur le service public.
On est bien d'accord.
et sinon, il y a aussi, évidemment, dans Ally McBeal, cette histoire d'amour que moi, j'ai toujours trouvé improbable, entre Ally McBeal et Billy. Et on a vraiment l'impression que c'est genre le vieux monde qui s'est rattaché à cette série. Ah oui, il faut quand même expliquer qu'elle est indépendante, mais... elle a cette histoire d'amour qu'elle n'arrive pas encore à totalement oublier, et lui non plus, avec ce Billy qui, excusez-moi, je sais que vous êtes des grands amateurs de la série, mais qui est chiant comme la pluie. Vous opinez du chef, donc Billy, il est pas cool, quoi.
C'est un peu le gendre idéal, en fait, donc il est un peu terne, un peu fade. Alors il a quand même ses moments, ce qui sert aussi à ramener Ally sur Terre, en lui disant arrête de rêvasser, de fantasmer, et vit la vie qui est là. Mais c'est vrai qu'il fait un peu Jiminy Cricket sur l'épaule, et on a un peu envie de lui dire t'es mignon, mais si j'ai envie de rêver, je rêve.
Ok, donc Julien Monnier, vous n'êtes pas fan de Billy non plus.
C'est pas mon personnage préféré, moi je suis plutôt Team Larry, ça c'est sûr.
Johanna ?
Non, Billy, il est intéressant dans le sens où il montre que justement elle sort de cette histoire, enfin finalement elle s'en extrait et puis elle vit d'autres histoires et au fond c'est juste un reliquat du passé. Mais moi ce que je trouve beaucoup plus intéressant chez Billy, c'est son épouse et
Georgia.
C'est Georgia. Exactement. Et la relation qu'Ali entretient avec Georgia, parce qu'on transforme une rivalité en quelque chose d'autre, de très très fort. Et c'est là où je trouve que la série est intelligente, c'est qu'elle prend d'ailleurs pas mal de personnages qui pourraient être rivaux pour en faire des alliés. Et ça, je trouve ça formidable. Donc les hommes sont beaucoup moins... Et ça, c'est peut-être un point commun de David et Kelly chez aussi dans Big Little Lies, c'est que les personnages féminins sont formidables et ils sont même bien plus intéressants que les personnages masculins.
Oui, néanmoins, que ça soit John ou Richard, oui. C'est des personnages qui terminent avec des femmes fortes, splendides. Alors que, excusez-moi, mais là, en termes de parité, juste, on n'est pas dans le même domaine.
Oui, ça reste le patriarcat quand même.
Oui, parce que c'est des petits bonhommes tout névrosés qui ressemblent à rien, qui sortent avec Portia de Rossi ou Calista Flockhart, mais c'est rarement le contraire, en fait.
Oui, ça c'est effectivement, ça reste une série un peu ancrée dans des choses un peu plus traditionnelles, mais... Mais quand même, quoi, les personnages féminins dans Ally McBeal, c'est quelque chose de vraiment très, 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 très fouillé, quoi.
Oui, une force et une solidarité qui est assez intéressante. Allez. Mais après, juste pour rebondir sur cette histoire, même aujourd'hui, hein, des petites bonnes femmes toutes bizarres et sans charisme, il n'y en a toujours pas, hein. Et du coup, elles peuvent pas sortir avec les Apollons. Donc, cette série-là, elle a fait avancer quelques petites choses
avancer la diversité des gens beaux.
Oui, et même sur cette question de la diversité, hein, elle est en vrai très limitée. On a réussi à citer deux personnages racisés. Et qui sont des personnages forts, qui sont un peu fouillés, etc. Mais René, elle correspond assez bien au trope de la bonne copine noire. Lisa Nicole Carson, qui a fini par disparaître un peu de la série parce qu'elle a elle-même eu des problèmes personnels à un moment, des problèmes de santé. Et elle a été un peu, voilà, évincée de la production parce qu'elle était un peu difficile à gérer sur le plateau. Et ça se ressent aussi, voilà, ça se ressent aussi, dans les séries network, en fait, donc pas sur le câble, il y a des impératifs de diversité. On reçoit des financements supplémentaires quand on a un casting un peu divers. Et donc, ça ressemble un peu à ça quand même.
On va poursuivre notre exploration de l'univers d'Ally McBeal tout de suite après Lorde qui nous interprète What Was That. A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kissed for hours straight, well baby, what was that? I remember saying then, this is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Well, baby, what was that? With me when I'm out with my friends, I stare at the painted faces that talk current affairs. You had to know this was happening. You weren't feeling my heat when in the blue light down, baby, so bright I face reality. I try to let whatever has to pass through me pass through. But this is staying a while. I know it might not let me go. MDMA in the back garden, blow our pupils up. We kiss for hours straight. Well, baby, what was that? This is the best cigarette of my life. Well, I want you just like that. Into your hands, we're in a sandstorm and it knocks me out. I didn't know then that you'd never be enough. Oh, since I was 17, I gave you everything. Now we wake from a dream. Oh, baby, what was that?
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
Mr. Little, hi. Monsieur Little, je m'appelle Ali McBeal et c'est un grand honneur pour moi. Je suis une fan de votre peinture.
Ce que vous pensez m'est égal. Allez donc chercher l'avocat, voulez-vous?
C'est moi, votre avocat.
Dressed like that? Dans cette tenue? Allez dire à votre patron que je veux que mon avocat porte un pantalon. Et pendant que vous y êtes, que je préfère les pénis.
C'est bon.
Les hommes sont de meilleurs avocats. C'est très macho, je sais.
Alors?
Il veut un pénis.
Je veux un avocat, fiche. Les vrais avocats ne sont pas déguisés en fille de joie. Ils sont en pantalon.
Vous avez beau être riche et célèbre, ça ne vous donne pas le droit d'insulter mes collaborateurs. Cette femme est une excellente avocate. Qu'est-ce que tu attends, Roule?
Non. S'il me veut, il me prend comme je suis habillée.
Un extrait d'Ali McBeal, saison 1, épisode 15. Julien Monnier, est-ce que dans votre pratique d'avocat, vous avez déjà été confronté à des clients qui ne voulaient qu'un ou une type d'avocat ?
Ah oui, on a des représentations assez genrées de... Oui, oui, c'est une réalité, oui. Il y a des clients qui viennent avec des préjugés, notamment par rapport au fait que la profession de magistrat se constitue, allez, je vais dire, à 60-70% désormais de femmes. Et donc, ils pensent qu'il faut avoir une avocate parce qu'elle elle va mieux se faire comprendre de la juge. Ou alors, on a des clients qui veulent absolument un avocat parce qu'il faut qu'il y ait un homme pour détonner parmi le concert de voix féminine. Donc, c'est un peu stupide parce que je pense et j'espère de tout mon cœur qu'en fait, ça n'a aucun impact. Et j'espère qu'on plaide de la même manière un dossier qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, mais c'est une réalité.
Et est-ce qu'en regardant Ali McBeal, vous vous êtes dit, en voyant certains procès, « Ah, bah, ça c'est bien vu » ou « Ça c'est un axe de défense que j'aurais pu utiliser » ?
Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis dit toujours en regardant Ali McBeal, c'est quand même des sacrés avocats, tous. Parce que, en règle générale, le dossier qui leur tombe dessus, non seulement est farfelu, mais en plus, on voit pas très bien comment ils vont réussir à s'en sortir. Alors, parfois, ils gagnent, parfois, ils perdent, mais même quand ils perdent, ils ont réussi à trouver l'argument qui fait qu'ils ont défendu leurs clients avec un certain niveau et qu'on peut espérer, effectivement, qu'il y a un vrai débat parmi le jury pour savoir qui a raison entre eux ou la partie adverse.
Je vous ai pas encore posé la question fatidique, mais quel est votre personnage préféré d'Ali McBeal ?
Moi, je crois que c'est Hélène Vassal, la secrétaire, qui est un personnage dont on n'a pas parlé encore, mais pourtant qui est là du début à la fin, qui est donc la secrétaire d'Ali, qui est jouée par Jane Krakowski, qui est une grande comédienne qui vient de Broadway notamment, et donc
qui chante extrêmement
bien, qui est une excellente danseuse, une excellente chanteuse, et manifestement la production et David Kelley ont découvert un peu son talent au fil de la série, et donc cette secrétaire un peu farfelue qui est un personnage intéressant parce qu'elle montre aussi qu'il y a différentes manières pour un personnage féminin de se réaliser, que justement ça ne va pas passer seulement par la carrière, ce qui peut être une des, et ça fait partie des reproches qu'ont pu être faits sur le féminisme de la série, c'est-à-dire qu'on est dans un type de féminisme très libéral où le succès d'une femme se mesure à son succès dans la société capitaliste et le fait qu'elle fasse carrière. Là, on a une femme qui revendique le fait que son enjeu c'est juste d'avoir un boulot qui lui plaît, qu'elle le fait bien, d'inventer des gadgets, de laisser exprimer sa créativité, d'avoir une vie sociale riche, et éventuellement de réussir grâce au face bra, ce gadget qui est censé retendre les tissus du visage, mais elle chante tellement bien, c'est vraiment mon personnage préféré, je crois.
Julien?
Moi, je pense que mon personnage préféré, c'est John Cage, parce qu'il a quand même une capacité, justement. Alors, c'est un plaideur incroyable.
Joué par Peter McNichol, qui est aussi le Janosch Poa de Ghostbusters 2.
Ah oui, c'est vrai. J'avais pas fait je le vois pas comme ça à chaque fois.
Ah ben moi, dès que j'ai vu, c'était vraiment Dana Barrett, attention, avec l'accent des pays de l'Est, mais très très mal fait, mais qui, voilà, Janosch Poa.
En tout cas, c'est un super plaideur et je me retrouve un petit peu en lui parce que parfois je me demande si j'ai pas aussi un peu
le complexe de l'imposteur quand je prends un dossier. Je me demande si je vais vraiment arriver à le faire correctement. Et je pense qu'il y a aussi ce petit problème de syndrome d'infériorité. Et pourtant, il s'en sort magnifiquement bien.
Et donc, pendant vos plaidoiries, ou la plaidoirie des autres, vous sifflez du nez, vous écoutez,
Non, j'essaye d'éviter d'interrompre quand même.
D'accord. Johanna ?
Mais moi, je crois que j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'ai du mal à trouver quelqu'un vraiment particulier parce que j'en aime beaucoup pour des raisons différentes. Mais je crois quand même que John Cage aussi, c'est un personnage qui m'a beaucoup parce que justement, son espèce de côté un peu errant comme ça, un peu rêveur, un peu m'a toujours beaucoup touchée et sa relative manque de confiance en lui. Enfin, c'est un mélange parce qu'il a une assurance aussi sur plein de choses. Mais voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé.
Et on n'a pas parlé de Robert Downey Jr., dont c'était quand même le retour en grâce, cette série. Bon, après, il est reparti, parce que voilà, le garçon a été turbulent. Il a fallu qu'il attende de revenir avec Shane Black et Kiss Kiss Bang Bang, mais ça a été une série dans laquelle il a compté.
Oui, mais comme de manière générale, il y a eu beaucoup de personnages très marquants, enfin de guests marquants là c'est un peu plus qu'un guest, c'est un personnage qui dure un peu longtemps, mais c'est ce qui fait aussi la série, je trouve, le fait qu'il y a plein de personnages comme ça qui apparaissent et il y a aussi beaucoup de caméos, donc c'est quand même, parce que c'est vrai qu'il y a plein de stars qui viennent dans la série.
Pousser la chansonnette de temps en temps.
Pousser la chansonnette
Elton
et tout
John,
ça.
Tina Turner.
Il y a eu Mariah Carey quand même.
Et il y a Mariah Carey, ouais. Donc,
Sting, me dit-on dans l'oreille.
Sting, absolument. Tina Turner. Enfin, oui, non, c'était.
Ouais. Ouais. Donc,
ouais. Et j'aimerais qu'on parle aussi de la manière dont Calista Flockhart a été scrutée par les paparazzi, parce que je trouve que ça a été d'une violence. Mais quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui chez certains acteurs ou même chanteurs ou chanteuses, hein, Adèle a été victime de ça, Lizzo, on scrute les gens sur leur poids, ah ils sont trop maigres, ah ils sont trop gros, etc. Ça a été très très loin en fait pour Calista Flockhart.
Oui absolument, après c'est la grande hypocrisie du système médiatique, hein, c'est-à-dire qu'on va à la fois exiger des femmes qu'elles se conforment à certains standards de beauté, et puis quand c'est trop, on va les clouer au pilori. Après, il y a des témoignages qui suggèrent que oui, il y avait probablement une culture un peu toxique sur le plateau.
Oui, Portia de Rossi disait que c'était Rossi, même pas forcément dans cette série, mais dans tout le système hollywoodien des séries où il y avait le culte de la maigreur autour des comédiennes. Elle ne mangeait que 300 calories par jour.
Oui, Portia de Rossi a été très, très, très claire sur le fait qu'elle a souffert d'anorexie à cette période-là et pendant longtemps. Calista Flockhart, elle n'en a jamais parlé, a toujours assuré que non, c'était comme ça, c'était son métabolisme, etc., etc. Bon, quand on est une femme et qu'on est habitué à lire les magazines féminins, non, c'est pas son métabolisme, c'est pas possible. Donc oui, il y a quelque chose qui était problématique. Après, l'actrice n'en était pas individuellement responsable. C'est le symptôme d'un système patriarcal un peu malade.
Oui. Après, c'est des réactions qu'on a eues aussi pour Chadwick Boseman quand on a commencé à voir les photos de lui très amaigri sur un tournage avec Spike Lee. Et les gens ont dit « Oh là là, il a trop maigri !» Et en fait, il avait un cancer. Donc, j'aurais tendance à dire « Fermez-la dès que il y a des questions de physique. Merci beaucoup, Johanna Louisen. Merci, Anaïs Lefebvre, Berthelot. Merci Julien Monnier d'avoir été sur ce plateau de Blockbuster pour parler d'Ally McBeal. C'est la fin de cette émission, une émission réalisée par Étienne Bertin et préparée par Lisiane Larbani et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire Amazir Amadaïm Guest. Et aujourd'hui à la technique, il y avait Gaspard Guy Bourget et au mixage Paola Collin. Comme toujours, vous avez le répondeur ouvert tout l'été au 01 56 40 30 20. Et si vous voulez parler directement avec moi, ça va aussi vite, hein, vous pouvez utiliser Instagram, Fred Sigrist. Et on se retrouve demain pour parler des zadistes bleus qui vivent dans la forêt. Non, je ne parle pas des navis d'Avatar, mais tout simplement les schtroumpfs de Peyo.
Qui est la fille, là ?
De qui il parle ?
Monsieur Ally McBeal est notre associé depuis moins d'un mois.
Est-ce qu'elle s'y connaît ?
Très bien.
Montrez-nous vos dents.
Je vous demande pardon.
L'hygiène compte beaucoup aux yeux de cette cour. Montrez-nous vos dents.